Bonjour, mes frères. Bienvenue au service du Seba. C'est merveilleux de vous voir tous. Et comme nous le voyons, le temps change à nouveau. Il a commencé à se réchauffer, mais il va faire plus froid. Et comme je l'aime, ce sera à nouveau l'hiver pendant un certain temps. Eh bien, nous avons tous, ou nous pouvons, j'avais un frère aîné. Je suis sûr que certains d'entre nous ont des frères et sœurs, d'autres non. Ma femme est fille unique. Certains d'entre nous ont peut-être été un frère ou une sœur aînée, eux, mais dans mon cas particulier, j'avais un frère aîné. Et ce frère aîné, parfois, c'était intéressant d'être avec lui, intéressant de passer du temps avec lui, mais je l'appréciais. Il a 4 ans de plus que moi et souvent plus quand nous étions plus jeunes, quand j'avais 4 ans, il en avait 8. Quand la différence d'âge était importante, il avait l'air d'être le frère le plus fort. Quand il avait 12 ans et moi 8, il avait l'air d'être le frère le plus cool, le plus intelligent, celui qui avait tout compris, surtout pendant l'adolescence. Je l'ai toujours admiré. J'ai toujours voulu lui ressembler ou faire ce qu'il était capable de faire. Quand il a eu 16 ans, il a pu conduire la voiture. Je voulais conduire la voiture. Je voulais faire ce qu'il faisait. Je l'admirais. Parfois, c'était un peu difficile. Mon frère étant plus fort, il le répétait sans cesse. Là où nous avons grandi, c'était une région vallonnée, et nous allions faire du vélo. À l'époque, nous faisions du vélo avec nos BMX. Si certains d'entre vous se souviennent de ce qu'est un BMX, nous explorions la ville avec ces vélos. Nous passions de nombreux dimanches après-midi à faire du vélo, mais je n'arrêtais pas de demander, presque de crier du bas de la colline, attendez-moi en haut de la colline, car mon frère était plus fort. Mon frère était plus âgé. Je devais toujours essayer de rattraper mon retard, travailler un peu plus dur pour arriver là où il était. Mais il était un exemple. Il était mon grand frère et, comme nous tous nos frères et sœurs, que nous soyons nous-mêmes un grand frère ou une grande sœur, ou que nous ayons eu des grandes sœurs, nos frères et sœurs ne sont pas parfaits. Mais ce sont nos frères et sœurs et ils sont un exemple pour nous. Et certains d'entre nous n'en ont pas. Certains d'entre nous sont peut-être des enfants uniques qui n'ont pas eu l'expérience d'avoir des frères et sœurs plus âgés ou plus jeunes que nous. Mes frères et sœurs, je veux vous parler aujourd'hui d'un frère aîné que nous avons tous. Vous pensez peut-être à Jésus-Christ. Oui. Il est notre frère aîné et il a été un exemple pour nous tous, un exemple qu'aucun frère ou sœur physique n'aurait pu nous donner. Il est là, comme parfois nos frères et sœurs aînés sont là pour nous soutenir, pour nous aider à réussir. Notre frère aîné Jésus-Christ est là aussi. Examinons donc cette règle que Jésus-Christ a en tant que frère aîné et apprenons ce qu'elle signifie pour nous. Comment elle peut s'appliquer à notre vie et comment nous pouvons le considérer comme notre frère aîné. Pour commencer, allons au verset 10 du chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu. Ce n'est peut-être pas le premier verset auquel nous aurions pensé pour parler de Christ en tant que frère aîné. Mais Matthieu 28 et verset 10. Et la raison pour laquelle je me tourne ici est que j'ai fait quelques recherches et j'ai constaté que dans les évangiles et dans cette chronologie, c'est la toute première fois que Christ utilise les mots mes frères, en faisant spécifiquement référence aux disciples. Lisons-le. Alors il leur dit Jésus, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères qu'ils vont en Galilée et là ils me verront. Plutôt dans les évangiles, Christ utilisera les mots amis, serviteurs, disciples, adeptes. Mais c'est le tout premier exemple, oh, c'est un point clé. C'est après la résurrection du Christ. Donc, quand il était vraiment le premier-né, Nous allons lire à ce sujet dans un instant, mais ici, après sa résurrection, Christ appelle les disciples mes frères. Maintenant, le mot grec est, vous pouvez aussi dire mes frères, mes frères. C'est juste intéressant si vous regardez cela. Le contexte des évangiles est où c'est? Vers la fin, la toute fin de l'évangile de Matthieu, Jésus utilise pour la toute première fois, mes frères. Eh bien, allons à une autre écriture pour en apprendre davantage sur Christ en tant que notre frère aîné. Allons à Romains 8 et verset 29. Juste pour le mettre en place un peu plus clair que Christ est notre frère aîné. Romains 8, verset 29. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le mot est utilisé ici à nouveau. Je veux examiner quelque chose de plus près. J'ai mentionné que le mot grec peut aussi signifier mon frère, mais il signifie quelqu'un qui a le même parent. Et vous et moi savons tous de qui est le Père du Christ, et par notre baptême, nous recevons l'onction du Saint-Esprit. Nous recevons, nous sommes engendrés de notre Père, et nous avons le même parent, le même Père, le même Dieu que notre Père. Quand nous lisons cette écriture, la fin, qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères, parmi de nombreux frères, parmi de nombreux frères et sœurs qui ont tous le même parent. Il est, en un sens, notre frère aîné. Le premier qui est né, et nous devons tous le suivre, et nous devons tous le suivre car nous avons le même parent, Dieu le Père. Allons à Colossiens 1, verset 18. Quelques autres passages pour illustrer cela. Colossiens 1, verset 18. Et il dit, et il est. Je vais vous lire quelques autres passages de ce chapitre. Et il dit, et il est la tête du corps, l'Église qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin qu'en toute chose, il ait la prééminence. Le premier-né d'entre les morts. Le premier à être ressuscité et à devenir un fils de Dieu, à devenir pleinement un fils de Dieu. C'est Christ. Vous, bien sûr, pour avoir la prééminence d'être le premier à diriger tous les autres qui doivent suivre. Je veux sauter au verset 15 et lire un peu plus loin juste pour avoir le contexte de qui est Christ, qui est notre frère aîné. Lisons le verset 15. Commençons ici. Qui est l'image du Dieu invisible? Donc Christ est l'image du Dieu invisible. Nous savons que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Le premier-né de toute créature. Encore une fois, le premier-né de tous les fils de Dieu. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Christ a tout créé. Notre frère aîné a tout créé. Verset 17, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et nous avons lu le verset 18 il y a un instant, mais par lui toute chose subsiste. Notre frère aîné, avant de devenir notre frère aîné, a tout créé. Tout ce que nous voyons, la chaise sur laquelle nous sommes assis, la salle où nous nous réunissons pour les offices du sabbat, nos corps, l'air que nous respirons, la terre sur laquelle nous vivons, les étoiles que nous voyons dans le ciel. Christ a tout fait, a tout créé. Bien sûr, par la direction de Dieu, l'instruction de Dieu et par la volonté de Dieu, mais il a tout créé, et par lui, tout est là, existe, continue, grâce au Christ, grâce à cet être divin. C'est notre frère aîné. Gardez cela à l'esprit, que tout ce qui nous entoure existe par lui. Alors que nous en apprenons davantage sur le fait qu'il est notre frère aîné, alors que nous poursuivons ce message. Allons à Hébreux 2, verset 11. Il y a quelques autres passages sur le fait que Christ est notre frère aîné. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, de les appeler frères, de les appeler frères. C'est vous et moi. Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Nous allons lire quelques autres passages de l'Épître aux Hébreux. Christ sait tout de nous. Il sait tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait. Il connaît nos faiblesses. Il connaît les choses dont nous ne voulons pas parler, auxquelles nous ne voulons peut-être pas penser. Les choses sur lesquelles nous trébuchons. Et Christ, notre frère aîné, nous appelle toujours frères. Il nous appelle toujours ses frères et sœurs. Il n'a pas honte. Peu importe tout ce qu'il sait de nous, tout ce que nous apprenons et tout ce que nous acquérons en tant qu'êtres humains, alors que nous marchons dans la voie de Dieu, que nous apprenons et que nous changeons, tout ce qu'il sait de nous, il n'a pas honte de nous appeler frères. Quel frère aîné ? Quel exemple ? Lisons juste pour le contexte ici. Verset 9. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu inférieur aux anges. Il était donc l'être divin qui a tout créé, puis il a été fait un peu inférieur aux anges. Car la souffrance de la mort couronnée de gloire et d'honneur qu'il par la grâce de Dieu devrait goûter la mort pour chaque homme. En fin de compte, son but, le sacrifice du Christ. Nous pouvons finalement avoir la vie éternelle. Car il est devenu lui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses et en amenant beaucoup de fils dans la gloire pour rendre parfait le capitaine de leur salut par la souffrance. Et encore au verset 11, il nous connaît, lui qui a souffert et qui a été mis à l'épreuve, lui qui est passé par toutes ces choses et qui nous comprend. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Appelez-nous ses frères. Allons au verset 17 et 18, à la fin de ce chapitre, pour voir ce qu'il est. Souvent, les frères et sœurs se soutiennent mutuellement. Un frère aîné veille sur ses frères et sœurs plus jeunes, les aide, les protège, et peut-être se bat pour eux. Que fait Christ pour nous? C'est pourquoi, frères. Verset 17 d'Hébreux 2, c'est pourquoi, et afin de rendre parfait ce qui manque aux afflictions du Christ, il fallait que celui-ci fût rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ainsi, nous pouvons être réconciliés en fin de compte avec le Père. C'est ce qu'a fait notre frère aîné. Car en cela, il a lui-même souffert, ayant été tenté, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était un humain, un peu inférieur aux anges comme nous le sommes tous aujourd'hui, lui qui a été tenté, il est capable de sauver, un vieux mot anglais, ceux qui sont tentés. Il est capable d'aider, de soulager ceux qui sont tentés. Ses petits frères, ses petites sœurs, ses petits frères et sœurs, vous et moi, c'est notre frère aîné. Il est capable d'aider, de soulager. Disons simplement que nous venons de voir qu'il est notre fidèle grand prêtre. Allez simplement à une page de ma Bible, Hébreux 4, 15, juste pour le revoir, pour bien comprendre ce qu'il fait pour nous en tant que notre frère aîné. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Christ a enduré tout ce que nous avons enduré. Christ a marché sur cette terre comme nous marchons, mais nous sommes tentés en tous points comme nous le sommes, pourtant sans péché. C'est notre frère aîné. Il est notre grand prêtre, il est là pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu. Il est là pour nous soutenir, en quelque sorte, pour nous aider, nous encourager, pour que nous atteignions le même but que lui. Alors que nous arrivons à la fin de notre réflexion sur Christ en tant que frère aîné, l'Écriture s'y rapporte, allons au chapitre 4 de Galates, verset 6. Nous sommes ici dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6, et parce que vous êtes des fils, en parlant de nous, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba, Père. Ainsi, par l'Esprit du Christ en nous, nous crions Abba, Père, nous crions vers notre Père. Verset 7, c'est pourquoi, vous n'êtes plus un serviteur mais un fils et si un fils, alors un héritier de Dieu par Christ. Ainsi, nous ne sommes plus des serviteurs puisque nous sommes engendrés par le baptême. Nous recevons un peu de l'Esprit Saint de Dieu. Nous sommes engendrés par notre Père, le même parent, et nous sommes maintenant un fils. Et si nous sommes un fils, alors nous sommes un héritier par Jésus-Christ, pour finalement devenir un fils de Dieu et finalement par ce que Christ a fait pour nous. Prenez une minute et faites une pause là. C'est une clé pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, l'Église dans laquelle nous sommes, la vérité que nous avons. Oui, ce n'est pas le sujet du message, mais Dieu en tant que famille. Et nous parlons du Christ comme de notre frère aîné. Nous voyons ici que nous sommes les fils de Dieu. Prenez un moment pour savourer cette vérité. Nous comprenons que Dieu est une famille, que Dieu a grandi sa famille, que nous avons la possibilité d'être des fils de Dieu, d'être des frères du Christ. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. C'est une vérité précieuse qui est si rare dans le monde d'aujourd'hui, et nous le savons. Et cela est lié au fait que Christ est notre frère aîné. N'oubliez pas, nous ne devons jamais oublier l'importance du fait que Dieu est une famille. Que Christ est le premier-né parmi de nombreux frères. Il est notre frère aîné et nous avons la chance d'être son petit frère, de faire partie de la famille de Dieu. Nous venons de voir que Christ est notre frère aîné. Souvent, quand on a un frère aîné, on a envie de le copier, de suivre ses traces. Voyons ce que Dieu nous dit à ce sujet. Allons au deuxième chapitre de l'Évangile selon Jean, au verset 6, qui parle du Christ, de notre frère aîné. Allons à 1 Jean 2 verset 6. Dans 1 Jean 2 verset 6, nous lisons, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Il s'agit d'une référence au Christ. Si vous dites que vous demeurez en lui, si vous demeurez en Christ, vous devez marcher comme Christ a marché. Gardez ses commandements. Nous devons garder les commandements du Christ pour marcher comme il a marché. Allons à 1 Pierre 2, verset 21. Une autre instruction est ce que nous devons faire avec l'exemple que notre frère aîné nous a donné. 1 Pierre 2, verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Que nous devons marcher sur ses traces, que nous pouvons voir ses pas tracés devant nous s'il y a des marques dans le sable, et nous allons essayer de faire en sorte que nos pieds marchent dans ses traces. L'hiver me rappelle ce que nous faisions quand nous étions enfants. Nous jouions à nous suivre les uns les autres dans la neige. Mon père avait une jardinerie et nous avions un terrain où nous pouvions perdre notre temps ou passer notre temps à jouer et nous nous suivions les uns les autres dans la neige. Nous essayions de suivre les pas de l'autre. J'essayais de cacher mes pas dans ceux de mon grand frère pour qu'il ne puisse pas me trouver. C'est un peu hors sujet, mais dans le passage de l'Écriture que nous venons de lire, il est dit que nous devons suivre les pas du Christ. Nous savons que Christ était sans péché et qu'il a respecté la loi, et nous devons respecter la loi, mais que pouvons-nous apprendre de notre frère aîné? Quels sont les exemples qui figurent dans la Bible et les évangiles et qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur qui il était, ce qu'il a fait, et quels exemples il nous donne à suivre? Quelles sont les étapes qu'il a tracées devant nous et que nous devrions essayer de suivre? Oui, bien sûr, nous voulons respecter les 10 commandements. Nous voulons vivre une vie sans péché et c'est l'exemple que Christ nous a donné, un exemple que nous voulons suivre, mais il y a d'autres exemples que Christ a montrés par la façon dont il a vécu sa vie et que nous pouvons également suivre. Nous devrions prendre note. Allons au verset 3 du chapitre 6 de l'Évangile selon Marc. Au début du récit, au verset 3 du chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, plutôt, et les évangiles ici et c'est l'histoire du Christ. L'histoire ici, mais Marc 6 et verset 3. Lisons. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Josès et de Judas et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Et ils étaient offensés contre lui. Je veux me concentrer sur le début de ce verset. N'est-ce pas, en parlant du Christ, le charpentier, le fils de Marie. Christ était charpentier. Il est intéressant de lire dans le verset suivant que Joseph était également charpentier. Ils font référence au Christ comme étant le fils du charpentier. Nous savons que Christ est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Il est intéressant de noter que Christ, enfant et jeune homme, a également fait la volonté de son Père physique. Il l'a fait. Il est devenu charpentier comme son Père. Un parallèle intéressant. Examinons cela un instant. Christ était charpentier, comme je l'ai mentionné, le fils d'un charpentier, il avait un métier, il avait un savoir-faire. Il maîtrisait un métier. Il maîtrisait la capacité de travailler le bois pour construire. Il construisait des maisons, des meubles, des granges. Il était productif. Quand il était jeune, à l'époque, il n'avait pas tous les outils et l'équipement que nous avons aujourd'hui. Il transportait le bois, le coupait, le finissait, abattait les arbres, tout à la main. Il était puissant, fort, en un sens, athlétique, mais c'était un homme d'action. Et pourtant, Christ était charpentier. Ici, à notre époque, nous méprisons parfois ceux qui exercent un métier manuel. Les métiers manuels, ce sont des métiers manuels. Ils travaillent de leurs mains. Christ a travaillé de ses mains et, plus important encore, comment nous pouvons appliquer cela à chacun d'entre nous, peu importe où nous en sommes sur le chemin de Dieu, que nous soyons sur ce chemin depuis des décennies ou que nous venions d'être baptisés. Christ a pris le temps d'apprendre un métier, une compétence et d'avoir une profession. Pendant son adolescence et jusqu'à l'âge de 20 ans, il attendait le moment où Dieu lui dirait, le guiderait, l'inspirerait pour commencer ce qui est le ministère le plus important qui ait jamais été accompli sur terre, et Christ savait que ce moment allait arriver. Christ savait que ce jour arriverait à un moment donné, que ce ministère commencerait. Et voici un exemple que notre Dieu nous a donné, qu'un fils de Dieu nous a donné, que notre frère aîné nous a donné. Il a passé son adolescence, il a passé la vingtaine. Il a passé le temps qu'il avait jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire ce pourquoi il était venu sur terre, à acquérir une compétence, à acquérir une profession. Il a mis à profit le temps qu'il avait. On pourrait très facilement, humainement, se demander pourquoi Christ n'est pas simplement allé à la plage et attendu. Pourquoi n'est-il pas simplement parti en randonnée et attendu que Dieu l'inspire pour commencer son ministère? Pourquoi n'est-il pas simplement allé pêcher? Pour passer un bon moment, car son travail viendrait plus tard. C'est un exemple pour nous tous, peu importe où nous en sommes dans notre cheminement, sur le chemin de Dieu. Christ est devenu un professionnel. Christ est devenu charpentier en attendant que Dieu l'inspire à commencer son ministère. Que faisons-nous, vous et moi, de chaque jour et de chaque instant. Suivons-nous l'exemple de notre frère aîné. Tenons-nous compte de son exemple. Faisons-nous comme lui. C'est une question. Et je sais que beaucoup d'entre nous le font. Beaucoup d'entre nous aussi, je parle pour moi, ont besoin qu'on le leur rappelle. Regardez ce que notre frère aîné a fait. Pendant qu'il attendait de faire le ministère le plus important qui ait jamais été accompli sur terre, il était occupé. Il a mis à profit le temps dont il disposait. Passons à l'exemple suivant. Allons à Matthieu 5, verset 41. Nous allons passer en revue quelques exemples cet après-midi. Autant que le temps le permettra, mais je veux vraiment porter un regard différent sur le fait de simplement respecter les commandements. Qu'a fait Christ pendant qu'il était sur terre? Ici, dans Matthieu 5, verset 41, un passage commun, nous l'avons tous entendu, j'en suis sûr, sous une forme ou une autre, si nous ne l'avons pas lu. Et c'est, oui, pendant le sermon sur la montagne. Mais nous savons que Christ, dans notre exemple précédent, était un homme d'action, et nous savons avec certitude que Christ n'était pas l'un de ces prédicateurs comme il y en a dans le monde qui vous disent de faire quelque chose, mais qui ne l'ont jamais fait. Regardons le verset 41 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, dans cette optique. Si Christ nous a dit de faire quelque chose, c'est probablement qu'il l'a fait lui-même. Regardons le contexte. Le verset 41 de Matthieu, chapitre 5, dit « Et si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Mettons-nous dans la peau du Christ. Suivons ses pas. Il était charpentier, comme nous l'avons dit. Donc il transportait probablement souvent des choses sur une route, travaillant, allant d'un site à l'autre, d'un travail à l'autre. Il voyageait. Où vivait-il à l'époque? Nous savons où il vivait. Il vivait en Galilée, mais que se passait-il autour de lui? C'était une terre occupée. Les Romains occupaient la Palestine, la terre promise à l'époque. Les soldats étaient partout. D'où vient ce passage? C'est qu'un soldat romain pouvait vous demander, vous contraindre, vous obliger à porter son paquetage, quel qu'il soit, sur 1,5 km. C'était la loi. Vous deviez le faire. Si vous ne le faisiez pas, vous vous rebelliez contre l'occupant. Maintenant, regardez l'attitude que Christ nous montre. Si Christ est un faiseur, c'est une question rhétorique, Christ est un faiseur, un soldat s'est-il réellement approché du Créateur de toutes choses, comme nous l'avons lu dans le passage précédent? Approchez-vous du Christ, car il était un homme ordinaire, un charpentier, probablement fort, musclé, et lui a demandé de porter son paquetage. Et qu'a fait Christ? Il a fait un effort supplémentaire. S'il nous avait dit de le faire, vous pouvez supposer que Christ a effectivement fait cet effort supplémentaire. Alors que tous les Juifs autour de lui, tous ses compagnons verraient que le soldat d'occupation l'a contraint à faire un effort et que Christ en a fait deux. Que faisons-nous dans des situations comme celle-ci? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons été contraints de faire certaines choses? Prenez l'exemple du Christ et gardez à l'esprit que Christ a très probablement fait cela plus d'une fois, qu'un soldat d'occupation l'aurait contraint à faire quelque chose qui aurait été plutôt embarrassant pour ses amis, en un sens, et l'exemple qu'il a donné en faisant un effort supplémentaire. L'essence du commandement pour nous, et plus loin, il parle de quelqu'un qui vous demande de lui prêter quelque chose, ne le repoussez pas. Christ étant charpentier, ayant une profession, un revenu, il disposait probablement de certains moyens. Il a pu donner le manteau et en obtenir un autre et continuer. C'est l'exemple que Christ nous a donné. Il y aurait beaucoup d'autres exemples dans le sermon sur la montagne que vous pourriez examiner et vous demander, Christ a fait cela et comment cela a-t-il été pour lui? Qu'est-ce que cela a dû être pour un soldat de choisir un homme ordinaire, et que cet homme ordinaire se trouve être le Fils de Dieu, et qu'il fasse un effort supplémentaire? Prenons un autre exemple dans Jean 11 et le verset 32. Parce que vous voulez regarder ce que Christ a fait, les autres exemples qu'il nous a donnés. Jean 11 et le verset 32. Ici, nous entrons dans le contexte, il s'agit de Lazareth. Ici, au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Christ, si tu avais été là, Lazareth ne serait pas mort. » Au verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et ici, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Et ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors viens et vois le corps. Viens et vois où il est. Et le verset 35. Et Jésus pleura. Et puis au verset 36, les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Nous voyons Marie venir vers Christ, lui dire qu'un ami proche et cher est mort. Christ est ému de compassion, ému d'émotion, voit les pleurs et les cris autour de lui et Christ est tellement ému qu'il pleure, pleure avec eux et tout le monde autour peut voir à quel point et dire « Oh là là, regardez, Christ aimait cet homme. » Christ a pu, au bon moment, mettre son cœur à nu pour montrer ses émotions, pour prendre soin de Marie et des autres qui venaient de perdre Lazareth. Vous pensez que vous vous opposez simplement. Christ est tout-puissant. Ici, Christ est capable de ressusciter Lazare et le fera plus tard. Christ savait qu'il ressusciterait Lazare. Christ connaissait sa capacité, mais il était également ému par le moment, il se souciait de Lazare et montrait de l'émotion. D'une certaine manière, il savait que Lazare allait être ressuscité. Alors pourquoi Christ pleurait-il? Pourquoi Christ montrait-il de l'émotion? Peu de temps après, il ressuscite Lazare. Il le ramène à la vie, mais Christ, au bon moment, a pu ouvrir son cœur, s'ouvrir librement à ses amis, à sa famille, aux disciples, et se soucier d'eux, et pleurer avec eux. C'est notre frère aîné. Il sait qu'il peut nous aider, il sait qu'il peut arranger les choses pour nous, mais il se soucie de ses frères. Que ressent-il, s'il a pleuré parce que Lazare était mort? Quand nous sommes blessés, quand nous trébuchons et tombons, que ressent notre frère aîné? Sait-il qu'il nous aidera, qu'il nous bénira, qu'il nous guérira si nous nous rachetons ou si nous continuons? Mais quand nous sommes blessés, quand nous trébuchons, quand nous tombons, quand l'un de nous est perdu dans cette vie, que ressent Christ? Christ est plein d'émotions et montre son émotion. Frères et sœurs, aux moments opportuns, voyons-nous l'exemple du Christ ici et suivons-nous ses pas et sommes-nous capables de faire ce qu'il fait et de le considérer comme notre frère aîné qui fera plus que probablement la même chose lorsque nous tomberons? Lorsque nous trébucherons, il souffrira à nos côtés. Il pleurera à nos côtés. En fin de compte, comme avec Lazareth, il nous aidera aussi. Un autre exemple de ce que Christ nous montre. Allons à Jean 2 et verset 13. Regardez un autre exemple du Christ. Nous venons de voir qu'il était capable de verser une larme, de pleurer comme un homme. Souvent, nous, les hommes de notre époque, nous ne devons pas pleurer, nous devons être forts. Nous ne devons pas montrer cette larme, montrer cette émotion, mais Christ l'a fait et à juste titre, nous devrions également suivre cet exemple. Mais ici, dans une autre manifestation d'émotion. Allons-y. Nous sommes dans Jean 2 et verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche, en lisant dans le contexte, et Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs et des moutons et des colombes et les changeurs d'argent assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il répandit l'argent des changeurs et renversa les tables, et dit à ceux qui vendaient des colombes, « Prenez ces choses, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Alors Christ entra dans le temple et dans le temple, il vit des gens changer de l'argent dans la maison de son père, vendre des marchandises dans la maison de son père, rendant banale l'importance du temple de Dieu. Et Christ les chassa du temple. Seriez-vous capable de faire cela? Oui. Pas dans une situation où nous pourrions avoir du zèle sans connaissance et nous précipiter dans les choses, mais au bon moment. Peut-être que c'est dans nos vies, peut-être que c'est une affaire personnelle, peut-être que c'est au sein de notre famille ou dans une situation au travail où des choses doivent être changées ou corrigées ou ajustées ou des principes doivent être maintenus ou même juste dans nos vies personnelles. Christ a su remettre les choses en ordre. Christ a su être juste et, comme les justes devraient l'être, audacieux comme un lion. Montrer de l'émotion et chasser ces hommes du temple. Chasser ces changeurs du temple. Pourriez-vous faire cela? Le contraire, c'est-à-dire être ouvert de cœur et pleurer la perte, la mort de Lazare, pour être maintenant plein de colère juste et remettre les choses en ordre au moment et de la manière appropriée. C'est l'exemple que Christ nous a montré. Sommes-nous capables de le faire dans nos vies lorsque c'est nécessaire? Bien sûr, lorsque c'est nécessaire, avec beaucoup de réflexion, de prière et de conseils. Sommes-nous capables de le faire? Sommes-nous capables de voir ce que Christ a fait et de le faire de manière appropriée? Montrer de l'émotion pour remettre les choses en ordre, montrer une juste colère au bon moment. Trop souvent dans la société, nous ne sommes pas censés. Je l'ai mentionné, nous ne sommes pas censés pleurer ou verser des larmes, nous ne sommes pas censés non plus nous exciter à l'excès parfois. Qu'a fait notre frère aîné? Quand il le fallait, il l'a fait. C'est une démarche que nous pouvons suivre au moment opportun, bien sûr. Passons à Matthieu 9 pour la prochaine. Matthieu 9 et verset 9. Des exemples quelque peu opposés. J'étais dans Matthieu, puis je suis passé à un autre évangile, alors revenons à Matthieu maintenant. Matthieu 9, 9. Et comme Jésus passait de là, il vit un homme nommé Matthieu assis au bureau de la douane et lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva et le suivit. Alors Christ vit un collecteur d'impôts et lui dit, « Viens et suis-moi. Viens et sois mon disciple. Venez et soyez, pas à ce moment-là, mais venez et soyez mon futur frère. Venez et faites partie de ma famille. » Un collecteur d'impôts. Lisons le verset suivant, le verset 10. Et il arriva, comme Jésus était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent s'asseoir avec lui et ses disciples. L'exemple que donne Jésus ici a un peu excité les pharisiens. Pourquoi traîne-t-il avec ceux que nous qualifierions aujourd'hui de perdants, de laissés pour compte, de déplorables, comme quelqu'un l'a malheureusement dit à un moment donné? Et cela peut être de part et d'autre du spectre, de chaque côté. Ceux qui ne sont pas populaires, ceux qui ne sont pas les enfants cool à l'école, ou les enfants cool au travail, ou les enfants cool dans le quartier. Et par les enfants cool du quartier, j'entends les adultes comme les enfants. Christ ne traînait pas avec eux. Avec qui est-il allé dîner et dans quel but? C'était avec les publicains et les pécheurs. Cet exemple est intéressant, car il ne décrit pas le péché des pécheurs. Il ne le décrit pas. Il dit simplement qu'il dînait, rompait le pain avec ceux qui sont pécheurs. Ce sur quoi je veux me concentrer, c'est qu'il ne choisissait pas, eh bien, celui-ci est pire que l'autre, ou celui-ci qui ne connaît pas Dieu, est pire que l'autre qui ne connaît pas Dieu. Quand parfois nous pouvons dire, et regarder ceux qui nous entourent, à notre travail ou à l'épicerie, partout où nous entrons en contact avec eux, ils ne connaissent pas le mode de vie de Dieu. Je suis peut-être un peu meilleur qu'eux, cela peut leur traverser l'esprit, cela m'a traversé l'esprit plus d'une fois, surtout quand j'étais enfant. Regardez ce que je vais apprendre. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va porter son royaume sur terre, dont je vais faire partie. Et tous ces gens à l'école, il fait Noël. Vous avez entendu mes histoires, c'est comme cela que j'appelais Noël quand j'étais à la maternelle. Nous les méprisions, mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas le mode de vie de Dieu. Et ici, Christ a saisi l'occasion de dîner avec eux. Il ne leur a pas dit de manger avec ceux du monde, mais il a pris le temps de dîner avec eux dans le but de leur apprendre à passer du temps avec eux. Il ne faisait pas de différence entre les personnes. Il a demandé à un collecteur d'impôts d'être son disciple. Un collecteur d'impôts qui était méprisé par la société à l'époque, et il a fréquenté les publicains et les pécheurs. Un exemple pour nous, que nous pouvons appliquer en fonction, vous savez, dans nos congrégations à travers le monde, sur les sites de collecte de fonds et ailleurs. À qui parlons-nous? Avec qui allons-nous dîner? Qui invitons-nous à dîner? Est-ce que nous nous assurons d'inviter tout le monde et n'importe qui? Que nous ne soyons pas pointilleux ou difficiles, mais que nous nous considérions tous comme Christ, et notre frère est né et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Chacun d'entre nous dans cette salle, chacun d'entre nous dans la salle, nous sommes aussi des frères. Nous sommes aussi des frères. Nous sommes aussi des frères et sœurs. Il ne devrait y avoir aucune considération de personne. Comme nous le lisons ici, Christ ne faisait pas exception de personne. Eh bien, il y a beaucoup d'autres exemples dans les évangiles de ce que Christ a fait, des étapes qu'il a tracées devant nous, dont nous pouvons tirer des leçons, que nous pouvons appliquer dans nos vies, que nous pouvons suivre son exemple et que nous pouvons être un jeune frère suivant notre frère aîné. Quel a été l'exemple ultime du Christ? Allons à Philippiens 2 et verset 5. Philippiens 2 et verset 5. Nous n'avons vu que quelques exemples dans les évangiles de ce que Christ a fait lorsqu'il était sur terre. Il y en a beaucoup d'autres que nous pourrions consulter. Eh bien, c'est une excellente étude biblique que nous pouvons tous faire chez nous et voir les étapes que Christ a franchies avant nous, mais allons à Philippiens 2 et verset 5 et voyons l'exemple ultime que Christ nous a donné. Au verset 5, que cet état d'esprit soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ qui, étant dans la forme de Dieu, n'a pas considéré comme un vol d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, a pris la forme d'un serviteur et a été fait semblable aux hommes. Verset 5. Que cet état d'esprit soit en vous, qui était aussi en Christ. Christ, votre frère est né, alors laissons l'esprit du Christ. Laissons l'exemple de notre frère est né être en nous. Suivons son exemple ici. Verset 8. Et ayant été trouvé en forme d'homme, il s'humilia lui-même et se rendit obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Or, Dieu l'a exalté. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Il était l'être divin qui a tout créé, qui a tout ce qui nous entoure existe grâce à lui. Il s'est humilié jusqu'à la mort pour que nous puissions tous avoir la vie éternelle et a été exalté. C'est l'exemple ultime que Christ nous a donné. Allons à Jean 6 et verset 38. Il y a peu d'écritures ici que vous devez parcourir. Jean 6 et verset 38. Avant que je ne descende du ciel pour faire ma propre volonté. C'est sur cela que je veux me concentrer pour conclure. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père a envoyé Christ sur terre. Christ n'est pas venu pour faire sa propre volonté. L'exemple que Christ est venu nous laisser n'est pas de faire sa propre volonté. En tant qu'être divin, il aurait très bien pu le faire, mais il a choisi de faire la volonté du Père qui l'a envoyé. Allons à Matthieu 20 et verset 28. Et ici, nous lisons, « De même que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ainsi, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir toute l'humanité, pour s'humilier au point de donner sa vie, pour vider complètement sa volonté et être pleinement en accord avec la volonté de Dieu. Pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, afin que nous puissions tous avoir la vie éternelle. Afin que nous puissions tous être frères et sœurs du Christ. Mes frères, que devons-nous faire? Allons à Matthieu 12, verset 50. En tant qu'être divin, Christ s'est humilié en tant qu'être humain physique, renonçant finalement à toute sa volonté et ne faisant que la volonté de Dieu, la volonté du Père, pour donner sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est venu pour servir toute l'humanité. Eh bien, que devons-nous faire? Nous avons vu que Christ est notre frère aîné. Nous voyons qu'il nous appelle ses frères. Lisons Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et mon frère. Ce que nous devons faire pour devenir les plus jeunes frères et sœurs du Christ, pour devenir les plus jeunes frères et sœurs du Christ en lui, c'est suivre son exemple, tous ses exemples. Et l'exemple le plus important qu'il nous a laissé est de faire la volonté du Père.